Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi je ne crains rien. Personne dans cette guerre ne meurt par accident. C'est ce qui fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Voici venir demain la suprême occasion de servir mon pays. Ma vie a été une vie très heureuse, ni balles, ni obus, ni pourront mettre fin. Ma seule prière, c'est qu'à travers tout, je demeure tout près de Dieu. C'est le seul moyen pour moi de demeurer tout près de ceux que j'aime, mes amis et mes garçons. Si je ne reviens pas, c'est que Dieu me trouvera de l'ouvrage ailleurs. Qu'est-ce que cela fait ? Dieu est bon. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été planté dès l'origine. On n'a pas inventé le scoutisme comme ça, par hasard. Alors, je vais commencer par vous poser une ou deux petites questions. Vous avez certainement vu ce genre de choses. Vous voyez ? Alors là, il est parlé du Honeck, hein, Gérard Mer. C'est pas tellement loin d'ici, c'est pas franchement... Mais vous connaissez ça. Les petits et les grands, vous connaissez ce genre de truc. On s'en sert souvent, on s'en sert beaucoup dans les scouts. Alors, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir pour se servir de ça ? Oui, il faut savoir le lire. Où est le nord, c'est bien. Il faut savoir où on est, oui. Et il faut savoir où on va. Alors, vous voyez, c'est quand même drôlement important ces questions-là. Savoir où on est et savoir où on va. J'ai aussi, j'aurais pu prendre une boussole, mais j'ai pas pris la boussole parce que, bon, on connaît un petit peu la région, dans le coin là, j'ai pas trop besoin de boussole. Mais c'est important de savoir aujourd'hui où on est et où on va. Et ça, c'est pas seulement dans le scoutisme, ce sera partout dans notre vie. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'époque dans laquelle on vit nous empêche ces deux choses-là. On ne sait plus où on est et on ne sait plus où on va. Et surtout où on va. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais aujourd'hui, celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, il se pose vraiment la question où il va. Et donc, c'est pour moi une question essentielle aujourd'hui, c'est de savoir où je vais. Quand on a des jeunes autour de nous, c'est un petit peu ce qu'on va leur montrer. Où ils sont et où ils vont. C'est une question essentielle de la vie. Seulement voilà, il faut savoir un petit peu comment il faut faire. Martin Luther disait, apprends à l'homme ses droits et tu auras une révolution. Apprends-lui ses responsabilités et tu auras un réveil. Je crois que c'est important d'avoir les deux. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même des droits, mais il ne faut surtout pas oublier qu'on a des responsabilités. Je crois que dans chacun d'entre nous, il y a un potentiel de responsable. Seulement, responsable, ça ne s'invente pas. On le devient. Mais chacun d'entre nous a un potentiel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont responsables, mais qui ne veulent pas prendre de responsabilité. On ouvre toujours le parapluie, vous avez remarqué ça. Il arrive un petit pépin, il faut trouver un responsable, n'importe lequel. C'est normal qu'il y ait un responsable, mais parfois... on est un petit peu perdu. Alors, dans la vie, il y a toujours un petit mélange de qualités. Matériel, terre à terre, et puis spirituel. Par exemple, si vous lisez le livre de Néhémie, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a ces deux qualités. Il est vraiment terre à terre, le gars. Il va sortir la nuit, il va regarder comment ça se passe, il va regarder ce qu'il faut faire. C'est un gars qui est matériel, il est sur le terrain, mais en même temps, il est spirituel. Et pourquoi j'ai continué dans les éclaireurs évangéliques de France, parce qu'il faut ces deux choses-là. Je crois de tout mon cœur que si quelqu'un n'a pas un esprit de responsable aujourd'hui, s'il n'a pas conscience des responsabilités, il n'avancera pas beaucoup dans le domaine spirituel. Mais je crois de tout mon cœur que celui qui est seulement spirituel n'avancera pas beaucoup s'il n'a pas le sens des responsabilités. Alors je crois qu'il faut vraiment avoir ces deux-là. Il faut apprendre les deux. Et j'ai été à une réunion d'information sur le scoutisme. J'avais 51 ans. Je ne savais pas du tout ce qu'était le scoutisme. et je me demandais ce qu'on pouvait faire avec nos jeunes. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos jeunes aujourd'hui? Vous savez, à une époque, on jouait avec un ballon de rugby. Aujourd'hui, on joue avec un référentiel bondissant aléatoire. Le monde évolue, mais beaucoup d'entre nous, on n'y comprend rien du tout. Alors aujourd'hui, il faut vraiment apprendre à nos jeunes à réfléchir. Et pour leur apprendre à réfléchir, il faut regarder ce que Dieu a créé autour de nous. C'est important combien de temps Jésus a parlé de la création. J'ai lu ça il y a quelques années déjà, et peut-être ça va vous dire quelque chose. Le livre a été écrit en 1996, édition française en 2000. Ça s'appelle « La jeunesse, ses problèmes et ses solutions ». Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, mais ça c'était en 1996 et en Amérique. Bien sûr, on s'en fiche, c'est loin, on n'est pas trop concerné. Je vais vous lire un petit peu ce que le gars a dit dans ce livre. 1000 adolescents tous les jours, pas tous les ans, hein, tous les jours, mais en Amérique. 1000 adolescents deviennent mères. 1106 jeunes filles se font avorter. 4219 jeunes contractent une MST. 500 ados se droguent pour la première fois. 1000 ados commencent à boire de l'alcool. 135 000 enfants apportent un revolver ou une autre arme à l'école. 3610 jeunes sont agressés et 80 sont violés. J'ai toujours du mal. 2200 jeunes abandonnent leurs études. 2750 enfants voient leurs parents se séparer ou divorcer. 90 enfants sont retirés de leur milieu familial et placés dans des familles d'accueil ou en institution. 7 jeunes de 10 à 19 ans sont assassinés. 7 adolescents de moins de 18 ans sont arrêtés pour meurtre. 6 jeunes se suicident. 1 sur 8 a des parents alcooliques. 1 sur 5 vit dans le dénuement. 22% vivent dans un foyer monoparental. 1 sur 50 vit sans parents. Les responsables ont révélé que les jeunes des églises évangéliques connaissent les mêmes problèmes. Ça, c'est dur. Et qu'est-ce qui m'a poussé à être dans le scoutisme? C'est parce que des cœurs peuvent changer. On a des jeunes chez nous, ils ont un vécu à 9 ans qu'on ne peut même pas s'imaginer. À 9 ans. Il y a une gamine qui est maintenant aux éclaireurs. Quand elle était louveteau, j'ai mis 3 mois à pouvoir avoir un contact normal avec elle. Elle se méfiait de tous les adultes. Vous comprenez pourquoi? Alors je crois qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes à réaliser aujourd'hui au niveau de notre jeunesse. C'est Mère Teresa, quand on lui a dit « Ce que vous faites, c'est une goutte d'eau dans la mer. » Et elle a dit « C'est possible, mais si je ne le faisais pas, la mer ne serait pas pleine. » Alors peut-être que c'est vrai, mais quand dans un camp, vous avez 4 gamins de 8 ans ou 9 ans qui viennent vous voir, à quel âge? Comment faut faire pour donner son cœur à Jésus? Le camp, vous ne l'avez pas fait pour rien. Et c'est réjouissant de voir ça. Mais moi, je crois que l'important aujourd'hui, c'est de former vraiment des responsables. Des gens qui vont réaliser que ce qu'ils vont semer, forcément, ça va donner quelque chose. Et quand on sème quelque chose, on va le récolter. Je crois qu'il y a 5 éléments qui sont vraiment importants pour avancer un petit peu dans la vie. Bien sûr, on peut en trouver d'autres, mais c'est des composantes, on ne peut pas s'en passer. D'abord, je crois qu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous sont ôtées. Il y a dans nos vies, dans nos cœurs, des choses importantes. Par exemple, le sentiment d'importance. C'est pas une question d'orgueil. J'ai envie de me sentir utile à quelque chose. Je ne sais pas vous, mais on a tous envie de se sentir utile à quelque chose. Et puis, on a envie de se sentir en sécurité. C'est deux choses qui sont intégrées en nous. On a été créés avec ce sentiment d'importance. Pourquoi j'ai été amoureux de mon épouse à un moment donné? Vous savez, j'aime regarder les dames. Mais je ne suis pas amoureux des dames ici comme je suis amoureux de mon épouse. C'est complètement différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quoi? Un jour, j'étais le plus important dans sa vie. Je pense que ça dure encore. je suis encore l'homme de sa vie. Ma fille m'a dit ça un jour. Papa, tu es l'homme de ma vie. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors je lui dis, il me dit, mais papa, tu es encore... Je lui dis, ouais, je sais. Bon, voilà. Pourquoi on est amoureux? Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui est important et on est important à ses yeux. Et puis, ce sentiment de sécurité, avant de donner ma vie à Jésus, j'avais un bon métier. Je conduisais les trains, j'étais pépère. J'avais une situation stable, j'avais ma maison, j'avais des enfants en bonne santé. Mais chaque fois que j'allumais la télé, je regardais les informations et franchement, il y avait de quoi déprimer. Et je me disais, mais avec l'instruction que j'ai, avec le niveau que j'ai, je vais être obligé de subir tout ça et je ne peux rien faire. Donc on ne se sent pas en sécurité, non seulement pour nous, mais pour nos enfants. Et puis un jour, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Et c'est comme si le mur, il volait en éclats. J'ai retrouvé ce que le monde m'avait ôté. Le sentiment d'importance. J'ai réalisé que si j'avais été tout seul, Jésus donnait sa vie pour moi. Alors c'est égoïste, mais à un moment donné, il faut y penser. Et puis ce sentiment de sécurité, Seigneur, comme disait tout à l'heure ce qu'on a lu, admettons que je m'en aille d'ici, je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Je suis en sécurité. Peut-être Dieu a un boulot pour moi ailleurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, je peux me confier en Dieu. Et j'ai retrouvé ces deux sentiments-là qui sont importants. Et pourquoi on peut être dans la joie aujourd'hui? C'est parce que le monde qui nous retire ces deux choses essentielles pour nous, Jésus nous les redonne. Jésus nous les redonne. Si on se confie vraiment en Jésus, vous êtes important à ses yeux. Et vous êtes en sécurité dans ses mains. Avant d'abandonner son poste de président de la Banque mondiale en 81, après 13 ans d'exercice, Robert McNamara a cité George Bernard Shaw dans son discours en disant « Vous voyez les choses telles qu'elles sont et vous dites « Pourquoi ?» Mais moi, je rêve des choses qui n'ont jamais été et je dis « Pourquoi pas ?» Et puis Martin Luther King disait « Sans un rêve, il ne se fait guère rien. » Et dans les grandes entreprises découlent toujours de grands rêves. Derrière elles se trouve toujours un grand rêveur au grand rêve. Il faut avoir une vision claire des choses. Il faut avoir un objectif dans sa vie. Mais ce n'est pas tout, être visionnaire. Il y a peut-être une différence, j'allais dire, entre un rêveur et un visionnaire. On raconte que chez Citroën, à une époque, alors je ne me rappelle plus son nom, c'était Fèvre ou quelque chose comme ça, il y avait un gars comme ça, il inventait 1000 choses par jour. Il y en avait 999 qui faisaient couler la boutique, et il y en avait une qui la faisait grandir. Alors à côté de lui, il y avait des gens qui réfléchissaient quand même et qui mettaient de côté ce qui était mauvais et qui prenaient ce qui était bon. Le gars, il a inventé la traction avant. C'était pas rien. Ça a développé l'usine Citroën en rien de temps. Mais il fallait faire le tri. Vous voyez, c'était un visionnaire, mais il fallait faire le tri. Donc c'est bien d'avoir un objectif, une vision claire des choses. Pour ça, il faut savoir où je suis et où je vais. Ça aussi, c'est important de savoir où on va. Je ne sais pas vous, mais quand vous sortez la voiture, vous, normalement, on a un objectif. On ne s'en va pas au hasard. Alors maintenant, il y a le GPS, on a mis le GPS ce matin, heureusement, c'est bien. Sauf que le GPS, il ne connaît pas tout. Mais, ouais. Mais quand vous allez quelque part, par exemple, nous, on a été voir le lieu du camp cet été, on est parti de Chalon-Villard, là, dans la Haute-Saône, et on a été du côté de Castres, là, dans le Tarn. J'ai un objectif dans ma tête, je sais par où je vais passer. Et j'écoute la radio, j'écoute les problèmes qui se passent là où je vais passer. Est-ce que je vais me poser des questions pour savoir ce qui se passe là-bas en Bretagne ? On écoute beaucoup de choses, mais on a tendance peut-être à évacuer ce qui nous intéresse vraiment. Alors aujourd'hui, je crois que chacune de nos assemblées, et non seulement chacune de nos assemblées, mais nous, dans l'assemblée, on a un rôle à jouer. Dieu a un plan pour chacun. Alors il faut savoir ça, où je suis et où je vais. Si vous ne savez pas quoi faire, la Bible dit, si vous ne savez pas quoi faire de vos talents, confiez-les à celui qui va savoir quoi en faire. Et lui, il va vous dire, là, tu peux aller là, C'est ce qu'on essaye de faire avec nos jeunes. Mais quand ils vont prendre une route, on essaye de leur faire réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles sur une route. Je ne sais pas, c'est très facile de se servir d'une boussole, en théorie, quand on la met sur la carte. C'est très facile. Moi, j'ai déjà fait des parcours. Sur la carte, ça va impeccable. Et puis, quand on va sur le terrain, c'est plus la même. Il y a des obstacles, il y a des creux, il y a des arbres, il y a des habitations, il y a plein de choses qui nous empêchent. Alors, comment on va faire? Alors, on s'arrête et puis on va faire le point. Et puis, on va dire, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Est-ce que je n'ai pas loupé quelque chose? Alors, vous allez fixer un point très loin, le plus loin que vous pouvez. Et puis, peut-être, vous allez faire un détour, il y a peut-être un précipice. Alors, vous allez faire un détour, mais le point là, vous ne le quittez pas des yeux. Vous avez toujours votre objectif. Alors, vous allez faire un petit détour, mais vous ne quittez pas votre objectif des yeux. Et vous allez aller à l'objectif. Et là, vous refaites le point. Est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Alors ça, c'est drôlement important parce que c'est la même chose avec Jésus. Est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Alors de temps en temps, il faut faire le point. Et puis de temps en temps aussi, on va faire un petit détour. Mais il ne faut jamais avoir autre chose que cet objectif-là. On a un objectif. On a une vision. Et il ne faut pas la quitter des yeux. Et nous, on apprend ça à nos jeunes. Vous avez un objectif, les gars. Vous savez, on a fait les foulards jaunes et verts. Alors jaune, ça représente le soleil, et le vert, c'est la création, la nature. Donc le soleil de justice et la création de Dieu. Et ça, je trouve que c'est vraiment un objectif. C'est quoi ma vision? Alors dans la vie, c'est obligatoire. Vous allez avoir des loupés. Est-ce que Dieu est fâché? Parce que j'ai loupé quelque chose. Je serais une exception si je ne loupais rien. Je loupe plein de trucs dans ma vie. Mais j'ai toujours l'objectif là. Et de temps en temps, je m'assois, comme avec ma boussole, et puis je me dis, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Est-ce que je suis toujours sur la bonne route, dans le bon plan? C'est ce qu'on essaye d'apprendre à nos jeunes à travers le scoutisme. Est-ce que tu es toujours dans la bonne direction? Si tu n'es pas dans la bonne direction, c'est simple, retourne et recommence. J'étais conducteur à la SNCF pendant 25 ans à peu près. Et vous savez, Dieu nous parle à travers notre métier. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Il parle aux mathématiciens avec les mathématiques. Et moi, il me parlait avec les trains. Puis un jour, j'étais en train de conduire l'Orient Express. Vous savez, ces trains formidables, là, les trains de rêve. Là. Et j'emmenais des gens en pleine nuit. Alors pour le conducteur, c'est pas marrant. Eux, ils sont bien derrière, hein, ils jouent, ils s'amusent, ils mangent, ils dansent, etc. Ils vont au cinéma, etc. Mais vous, vous êtes devant. À 2h du matin, vous commencez sérieusement par dire bonjour à tous les poteaux. Alors, il faut se lever, etc. C'est pas trop facile. Mais j'avais les larmes aux yeux. Je me disais, voilà, des gens derrière qui s'amusent, qui profitent du bon temps, qui ont payé pour ça, mais ils ne s'occupent même pas du conducteur. Le gars, il peut être beurré, à cette époque-là, on pouvait. Le gars, il pouvait être saoul, il peut dormir, il peut les emmener à 140 km à l'heure dans la gare de l'Est et ils vont tous à la catastrophe. Ils ne s'occupaient même pas de ça. Et je me dis, mais le monde est comme ça. Il fonce, il fait ce qu'il a envie de faire, mais il ne s'occupe pas du conducteur de leur vie. Et je me disais, ça, c'est terrible. Et vous savez, quand c'est comme ça, on a envie de crier à Dieu et dire, mais Seigneur, ouvre-leur les yeux. Ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font? Alors on essaye d'apprendre ça à nos jeunes. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Qui est le conducteur de votre vie? Est-ce que c'est la console? Alors voilà, c'était un petit peu pour présenter ça. Je vais vous citer quand même d'autres choses. Je ne voudrais pas prendre trop de temps. Mais avoir cette vision, mais aussi l'activité. Pas de l'activisme, mais vraiment celui qui a une vision seulement, ça ne va pas aller loin s'il ne met pas les choses en pratique. Thomas Edison, je pense que tout le monde connaît, c'est l'inventeur du phonographe et de l'ampoule électrique. Il disait, le génie se résume en 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Je pense que si on a la vision des choses, un objectif, et puis qu'on laisse les choses venir, on ne va pas aller loin. Donc il faut vraiment passer à l'acte. C'est bien de dire des choses, mais il faut s'y mettre. La reine Victoria disait un jour au pianiste Paderewski, « Monsieur Paderewski, vous êtes un génie ». Il lui a répondu, « C'est possible, madame, mais avant d'être un génie, j'ai été un homme de peine ». Combien d'heures par jour un virtuose passe sur son piano ou sur sa guitare? Ce sont des hommes de peine. Mais nous, on voit l'apparence des choses. Mais il faut passer aux actes. Par contre, on a besoin des autres. On a besoin des autres parce que on doit rester des visionnaires réalistes. Y a des visionnaires qui sont complètement en dehors de la réalité. Ça vous est peut-être arrivé d'en rencontrer. On a besoin d'être ensemble. On a besoin d'un groupe. Parce qu'il n'y a qu'en groupe qu'on va pouvoir mettre, j'allais dire, des limites aux choses, des barrières. Je me trompe dans mes pages. J'ai lu dans un livre un jour, ça doit être Carlo Brugnoli qui écrivait ça, « L'onction de Dieu ne remplace pas le travail que je dois faire, mais elle s'appuiera dessus ». Des gens, parfois, vous savez, quand j'ai quitté le monde, enfin j'allais dire j'étais à l'atelier, et puis je dépannais les wagons restaurants à une époque. Alors heureusement que j'ai arrêté, parce qu'on avait la clé des frigos. Je vous explique pas. Là je pense aujourd'hui je pèserais 200 kilos. Il y avait des super gâteaux à cette époque-là, dis donc. Mais j'ai quitté ce métier pour être conducteur. Les gens qui étaient à côté de moi, ceux qui travaillaient, ils se disaient « mais tu vas plus avoir de samedi, tu vas plus avoir de dimanche, les jours de fête, t'en auras plus, etc. » Et ils étaient jaloux un petit peu. Mais ça, pour moi, c'était pas important. J'avais décidé de faire quelque chose. Donc je me suis mis au boulot. Je me suis mis au boulot pour y arriver. J'avais un objectif, j'avais une vision, elle était claire cette vision. Je voulais faire ça. Et j'ai foncé pour y arriver. Alors il a fallu que je travaille pas mal, parce que j'étais pas un intellectuel, j'y connaissais rien, mais il fallait apprendre des règlements. Et vous savez, des règlements administratifs, c'est pas compliqué, mais qu'est-ce qu'il y en a? À la virgule près, faut apprendre ces réglementations. Alors donc j'ai potassé pendant un an et demi, mais j'ai réussi à avoir cet examen, parce que je m'étais fixé un objectif. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui, fixez-vous un objectif et vous ne laissez pas détourner par tout ce qui vient à côté. Foncez dans cet objectif-là. Alors, si vous avez vraiment un objectif avec le Seigneur dans votre vie, vous allez voir, ça va aller. Alors, je parle aux jeunes parce que j'ai l'habitude de m'adresser, bien sûr, aux jeunes. Mais c'est pareil pour tous. C'est pareil pour tous. Alors, la persévérance aussi. La persévérance, c'est drôlement important. Thomas Sutcliffe Mort, vous connaissez bien? Ouais. Comme moi, je l'ai lu aussi parce que je ne sais pas. Alors, c'est il s'est installé comme colon à Sydney au début du 19e siècle. Il voulait à tout prix résoudre le problème de la réfrigération pour pouvoir exporter de la viande de l'Australie à la Grande-Bretagne. Il s'était donné 3 ans pour y arriver. Il lui en a fallu 26. Il a vécu assez longtemps pour voir la première cargaison de viande réfrigérée quitter Sydney, mais il est mort avant d'avoir su si elle était arrivée en bon état. Sur la corniche de sa pièce d'étude, c'était écrit 20 fois « Persévérer, c'est réussir ». Et c'est ça qu'il faut retenir. Persévérer, c'est réussir. C'était pareil pour Wilberforce. Vous savez, nous, on habite à côté de Champagnet. C'était un endroit où vraiment on a combattu l'esclavage des Noirs. Lui aussi, il a combattu. Il a mis 45 ans pour y arriver. 45 ans pour un jour voir que l'Angleterre allait verser des millions de livres pour dédommager ceux qui avaient des esclaves. Il est mort 3 jours après. 45 ans pour y arriver, mais il a réussi. Alors aujourd'hui, s'il y a quelque chose dans nos vies qui nous intéresse vraiment, on voit l'objectif à atteindre, alors il faut y aller. Et puis des fois, on est découragé, on a tendance à baisser les bras. Mais il faut y aller. Dans 2 Timothée 4:7, l'apôtre Paul va dire « J'ai combattu le bon combat, J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il a combattu le bon combat. Ce n'était pas une sinécure. Ce n'était pas le Club Med. Ce n'était pas un jeu vidéo. C'était du vrai. Mais il a été jusqu'au bout. Et il y en a un autre qui a été jusqu'au bout, qui avait pris un engagement et il a été jusqu'au bout. Pourtant, à un moment donné, lui aussi, il avait envie de baisser les bras. Mais il a été jusqu'au bout. Et ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Il avait pris un engagement, sauver ce qui était perdu. Et il a été jusqu'au bout. La discipline, ça c'est le truc un petit peu plus compliqué peut-être pour chacun de nous. Mais la discipline, ça existe. Et aujourd'hui, on la met de côté. Chacun fait ce qui lui semble bon. Pas ce qui lui semble mauvais. Chacun fait ce qui lui semble bon. Mais la discipline, elle est où? Alors il y a toujours une grosse différence entre la théorie et la pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. L'idéal chrétien a aussi ses faiblesses. Mais quand vous, comme j'ai dit tout à l'heure, la théorie c'est quoi? Je prends ma carte et je trace le trait tout droit. Et puis après je passe à la pratique. Hein? Vous avez déjà remarqué ça? On prend la boussole et on se dit voilà, la balise elle est là, je vais la chercher. Mais quand on arrive sur le terrain, c'est pas la même. Un jour, j'ai été me promener comme ça et il y avait un espèce de fil électrique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis passé par au-dessus. Et j'ai continué, c'était la bonne route. Puis tout à coup, j'ai entendu un truc derrière, avec deux cordes. Il n'était pas trop content. Je me suis barré vite fait, même plus que vite fait. Et là, il n'y avait plus d'obstacle. Par contre, j'ai dit avec mes gamins, je passerai peut-être pas là. Parce que là, ils vont arriver de l'autre côté plus vite que prévu. Et donc, on a fait un détour, parce que la réalité, des fois, ça ne correspond pas trop à la théorie. Et ça sera pareil dans nos vies. On se fixe un objectif, on a l'impression que tout va aller bien. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui coince. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Simplement, il faut examiner comment on peut faire pour évacuer ce problème. Ou changer. Hein? Noé, il n'a pas fait toujours ce qui était bien. Abraham, vous vous rappelez, hein? Il a risqué quand même la pureté de sa femme, hein? Pour sa sécurité à lui. Moïse s'est mis en colère. Je ne parle pas de David, je ne parle pas non plus de Jean-Baptiste ou de Pierre. Ils ont tous rencontré des difficultés à un moment donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il ne faut pas rester sur un échec, il ne faut pas rester sur une difficulté. Alors ça aussi, on l'apprend à nos jeunes. Il y a des difficultés, c'est vrai, mais il faut apprendre à les surmonter. Alors moi, j'ai les petits de 8 à 11 ans, parce que j'arrive encore à courir avec eux. Au-dessus, j'ai du mal. Après, au-dessus, il faut ruser, maintenant. Le petit, là-bas, Mathias, je l'ai eu dans les louveteaux, tu avais 8 ans. Hein, il faisait bien 50 cm de moins. Et puis, pareil, en kilos. Mais à cet âge-là, j'arrivais non seulement à le suivre, mais je le dépassais. Mais maintenant, c'est plus trop le cas. Alors, c'est vrai. Donc, dans les scouts, vous savez, ce qui est important, et je crois que tout le monde va réaliser que c'est important aussi dans nos vies, c'est si moi je ralentis, il s'arrête. Et si je m'assois, il se couche. Donc, c'est important d'être devant, et puis d'être des modèles, des exemples autant qu'on peut. Et je crois que dans nos vies, c'est un petit peu ça aussi. On est chrétien ou on ne l'est pas. Si je suis chrétien, né de nouveau, j'ai un exemple à montrer. Même si des fois, je serre un peu les dents. Je ne sais pas si vous avez rencontré ce genre de situation, mais il y a des fois, franchement, j'ai envie de réagir comme quand je n'étais pas chrétien. Vous savez, avant d'être né de nouveau, je n'avais pas peur de grand-chose. Je suis né à Paris, j'ai vécu dans le fameux 9-3, 93, où il y a des voitures qui brûlent, où vous ne promenez pas la nuit à 23 heures. Mais j'ai vécu là, et il faut apprendre à se débrouiller. Et donc, il y aurait eu plein de gars devant moi, et j'étais dans la difficulté, je rentrais dedans. C'était pas un problème. Bon, je ne sais pas comment je suis sorti. Ça, c'est une autre histoire. Mais ça ne me faisait pas peur. Mais un jour, j'ai donné ma vie à Jésus. Et Jésus, il m'a dit, d'accord, c'est bien de rentrer dedans, mais peut-être pas de cette façon-là. Il y a peut-être une autre manière. Et si tu veux que tes gosses le fassent, c'est à toi de montrer l'exemple. Alors, est-ce que dans ma vie, je montre toujours l'exemple? Est-ce que je suis toujours un modèle? Non, hein. Des fois, il y a des loupés aussi. Mais Dieu n'est pas fâché. Un jour, j'ai emmené des jeunes, un groupe de jeunes de l'Assemblée, et je les ai emmenés au dépôt SNCF où je travaillais. Alors, il y en a qui ont conduit la locomotive, c'était un dimanche, et puis le personnel était sympa avec moi. Donc, il y en a qui ont conduit une locomotive et qui a manœuvré un petit peu. Et puis, il y en a d'autres qui étaient dans le dépôt et qui manœuvraient les locomotives dans le dépôt. Et puis, c'est simple quand Dieu nous parle. Mais la locomotive, il faut la mettre à un endroit bien précis parce qu'elle va partir à telle heure avec un train bien précis. Si on se trompe, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas un problème. Il faut juste revenir, refaire le bon aiguillage et la remettre à sa place. C'est pareil avec les grands trains. Un jour, j'ai fait un train pareil, l'Orient Express, mais pour revenir. Et puis, on m'a aiguillé sur la mauvaise voie. Donc, on le voit. Je m'arrête avant, de partir dans la mauvaise direction. Et puis, je vais au téléphone. Et puis, je dis au gars, dis donc, je suis tel train. Alors, j'entends un blanc. Puis, tout à coup, oh merde. Donc, le gars, il s'était trompé, quoi. Alors, on a perdu 10 minutes. Mais voyez, moi, j'avais un objectif. Je savais où je devais aller. On a essayé de m'emmener où je ne devais pas aller. Je me suis arrêté et j'ai rectifié. Mais ça sera toujours comme ça dans nos vies. Il y a des moments où on peut-être les autres, mais nous aussi, on va partir dans une direction qui n'est pas la bonne. Alors soit on peut s'arrêter avant, et puis si on se trompe, faut faire marche arrière. Alors des fois, pour faire marche arrière, hein, c'est une voiture, ça va bien, un train, c'est autre chose. Hein. Il y a quand même pas mal de trucs à faire, on ne fait pas une marche arrière avec un train comme ça, mais ça se fait. Alors tout ça, c'est la vie, et c'est la vie qu'on essaye d'apporter à nos jeunes. Le sens des responsabilités, ça passe par tout ça. Alors, bien sûr, il y aura beaucoup de choses à dire. Hein. La création, est-ce qu'elle prend beaucoup de place dans la parole de Dieu? Il y a pas mal de choses hein, qui parlent de la création. Les lions, les baleines, les fourmis, les mulets. Job 12, c'est moi. Job 12, qui nous rappelle qu'il faut interroger les bêtes. Les figues pour guérir, les figuiers, les chardons, les épines, les champs de blé, les vignes, les oliviers, l'herbe, les fleurs. Etc. Hein? Et Romains, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1 et au verset 20, nous dit que la création, l'œuvre de Dieu se voit dans la création, comme à l'œil nu. Et donc, on n'aura aucune excuse. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Il y a quelque chose qui m'a touché un jour, quand j'ai lu la Bible, c'est « Qu'avez-vous fait de ce Jésus qui est appelé Christ ?» Alors là, je me suis posé la question. Vous savez, la Bible, je l'ai lue une fois complète pour essayer de trouver quelque chose qui n'était pas bon dedans. C'est bien. Il faut se faire une idée. J'ai vu Adam est mort à 930 ans. J'ai dit, bon, faut pas me la faire. On retire 900 ans, d'accord. Et puis j'ai été donné à manger à mes lapins parce que j'avais des lapins. Et je regardais mes lapins. Puis je dis, mais si je mets un lapin et une lapine dans le même clapier, forcément, ils vont faire des bébés lapins. Normalement, hein. Et les bébés lapins vont faire des bébés lapins. Et au bout de 2 ans de temps, tout le monde est dégénéré. Je me disais, alors pourquoi pas dans 930 ans et moi 100? C'était pas forcément vrai. Mais je pouvais plus dire que c'était faux. Et j'ai continué la Bible comme ça jusqu'au bout. Il y a plein de questions que je me pose encore, mais je peux pas dire que c'est faux. Alors j'ai dit, il y a un truc, ça doit être, il doit y avoir des trucs vrais là-dedans. Bon, puis il y avait des trucs qui me gênaient. Hein. J'ai essayé de tourner la page assez vite, hein. Si on te frappe sur la joue droite, moi je retenais plutôt, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Hein. Comprenez ce que je veux dire. Mais forcément, Jésus disait pas ça comme ça. Et vraiment, je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de potentiel chez tout le monde. À condition de mettre vraiment la parole de Dieu en pratique. Alors c'est ce qu'on essaye de faire d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu ce que nous, on essayait de faire avec nos jeunes. Et j'espère que pour chacun de nous, c'est un petit peu notre vision, notre objectif. Il faut se rappeler de ça, parce que c'est important. Si je ne sais pas où je suis, et si je ne sais pas où je vais, alors là, j'ai un gros problème. Et c'est ce problème-là, il faut le résoudre assez vite. Parce qu'on a un objectif dans nos vies. Peut-être on ne l'atteindra jamais, parce que ça, ça appartient à Dieu. Vous savez, moi, j'ai plein de projets. J'ai un projet de camp pour 2014 à l'étranger. Mais si le Seigneur revient demain, je vais lui dire, écoute, non, t'aurais pu attendre un peu. Je pense pas, hein. Il va y avoir un super camp là-haut, hein. Je vais vous dire, Jésus, il est en train de nous préparer quelque chose, super, mais seulement voilà, il a dit, il faut que la table soit remplie, il faut que la table soit complète. Alors à chacun de nous de travailler dans les talents que Dieu nous a donnés. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est parce que normalement, nos jeunes, ça fait partie de notre réglementation, dépendent d'une assemblée, doivent rendre compte à une assemblée. Je pense qu'au niveau spirituel, c'est important. Nous, on est sur la terre, terre à terre, aussi spirituel, mais je pense que avoir une couverture spirituelle, c'est important. Et donc, on veut, dans notre réglementation, que nos jeunes dépendent d'une assemblée. Et donc, j'ai demandé à Luc si ça ne le dérangeait pas, puisque des jeunes font partie de son assemblée, d'adhérer et de dire, voilà, ben, ce groupe-là peut faire partie de notre assemblée. Alors, je voudrais dire, c'est une œuvre d'église. C'est pas quelque chose qui doit être à part. Mais voilà, c'est pour ça, il faut vraiment qu'on soit d'accord. C'est une œuvre d'église. C'est quelque chose qui vient se rajouter. Quand j'ai été à Héricourt, je lui ai dit, je viens avec mes scouts. T'es d'accord, je viens, t'es pas d'accord, je peux pas venir. C'est une œuvre d'église. C'est-à-dire qu'ils vont vous rendre compte de ce qu'ils font. Ils vont vous demander peut-être des conseils quand ils en ont besoin. Ils vont vous demander de prier pour eux quand il y en a besoin. Et ils ont besoin d'être... avec quelqu'un, et c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà, donc je vais peut-être arrêter, je crois que j'étais déjà pas mal long. Peut-être, si vous avez, je sais pas, des remarques ou peut-être une petite question, mais je pense que Onyx va vous présenter maintenant l'œuvre, vraiment, le mouvement, hein, un petit peu comment ça se passe, comment on travaille.
Moi, je suis un peu plus petite, donc je fais comme ça, c'est plus simple. Voilà, donc les éclaireurs évangéliques de France, c'est nous, c'est bien joli, mais qui on est vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu ce que je vais vous essayer de vous expliquer un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez notre slogan, on va dire, c'est le scoutisme, une aventure pour demain. Alors le scoutisme... on sait à peu près tous ce que c'est. Une aventure, ça fait rêver, mais pourquoi pour demain? Ben parce que, comme disait Jean, notre objectif, ce n'est pas juste de faire des loisirs, ce n'est pas juste d'occuper les jeunes, ce n'est pas de leur faire vivre des choses comme ça, c'est de les amener à demain, de les amener à pouvoir faire des choix. Donc c'est une aventure pour demain, pour l'avenir, pour tout le reste. Voilà, si tu peux juste... merci. Donc, en quelques mots, notre association, ben, un mouvement de scoutisme, pour les jeunes de 6 à 21 ans. Et le scoutisme, c'est une éducation globale de la personnalité. Ce n'est pas juste un loisir, c'est vraiment un système d'éducation complémentaire à la famille, complémentaire à l'école, complémentaire à tout ce qu'il peut y avoir. Mais c'est de l'éducation. Le but, c'est d'amener l'enfant, voilà, c'est une éducation physique, intellectuelle, sociale, manuelle et spirituelle. Vraiment de développer le potentiel des jeunes dans toute leur globalité. Donc au niveau purement légal, on va dire, on est une association 1901. On est membre de l'UFCV, l'Union française des centres de vacances, du CNEF et de la FSEF, la Fédération du scoutisme évangélique français. Et on représente à peu près 650 membres partagés en 16 groupes locaux et un groupe évasion. Donc le principe, c'est qu'un groupe local, c'est ce qu'on fait ici, ce qu'on fait à Belfort, des jeunes qui se retrouvent toute l'année, rattachés à des églises et qui vivent le scoutisme toute l'année. Et le groupe Évasion, c'est les jeunes qui n'ont pas la possibilité de se retrouver à l'année parce qu'il n'y a pas assez de jeunes chez eux, parce qu'il n'y a pas de chef, des choses comme ça, et qui, eux, font donc que des camps l'été. Voilà. Et il y a à peu près, ça se partage, 500 jeunes, 150 responsables à peu près. Voilà, donc le scoutisme. Si tu peux juste passer la suivante, s'il te plaît. Ça ne marche plus, si c'est bon. Voilà, donc le scoutisme, qu'est-ce que c'est pour vous? Là, je vous pose un peu la question, allez-y, à part toujours prêt, comme on vous a montré tout à l'heure, ou Gérard Jugnot avec son petit short et son sifflet qui n'en peut plus, est-ce que vous avez une autre idée de ce que peut être le scoutisme? Ouais. Aussi, oui. Il y en a d'autres qui ont d'autres idées, d'autres choses. Oui, par exemple, oui. Mm-hmm. Tout à fait. Bon, ben, je vois qu'il y a des anciens scouts ici, je pense, ou au moins des gens qui sont très intéressés. C'est un petit peu ça, oui. Donc le scoutisme, concrètement, indépendamment de toutes les activités, indépendamment de l'objectif qu'on peut avoir, il y a vraiment, on va dire, un petit peu de recherche derrière. C'est un mode de vie, si tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. C'est une façon de vivre différente de ce qu'on a d'habitude. Tu peux changer, ouais, s'il te plaît. Merci. Voilà, tu peux cliquer un coup. Voilà, donc, je suis désolée, c'est pas très lisible. Le scoutisme, c'est donc, comme je disais, une pédagogie, c'est une méthode active. Le système, c'est que le jeune est au milieu de cette pédagogie, c'est lui qui en est le centre et c'est lui qui en est l'acteur. C'est différent d'un centre aéré, par exemple, parce que c'est pas nous, les chefs, qui allons organiser quelque chose et le jeune arrive et dit, tiens, moi, aujourd'hui, je veux faire du badminton, moi, je veux faire de l'équitation, moi, je veux faire du bricolage. Non, c'est le jeune qui choisit son projet, qui est conducteur de sa vie et qui va donc devoir apprendre à faire des choix, à en assumer les conséquences, à compter sur lui, à se débrouiller, à demander de l'aide quand il y a besoin. C'est lui vraiment qui est acteur de ça. Le but du scoutisme, c'est l'épanouissement total du jeune sur tous les plans de sa vie. Donc, au niveau des responsabilités, on va en faire des citoyens responsables, des citoyens qui soient compétents, des citoyens capables de faire des choix, des citoyens utiles et des citoyens actifs. Ça fait beaucoup de choses, c'est un gros projet, mais c'est surtout eux qui le mettent en place. Donc c'est une méthode complète, voilà, vous voyez, il y a 5 axes vraiment de progression. Le plus important, j'ai envie de dire, même si tous sont liés, c'est un peu comme les 5 doigts de la main, donc on a besoin de tous les doigts. Des fois on dit le pouce est le plus important parce qu'il fait l'opposition, sans pouce on est un petit peu mal fichu, mais n'empêche que si on n'a pas l'index ou le majeur, on a aussi des problèmes et ainsi de suite. Donc le plus important, c'est la promesse et la loi. La loi, c'est une loi positive, ce n'est pas une loi de sanction, tu ne dois pas, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est voilà, je vais vous lire un petit peu quelques extraits. Voilà, donc, l'éclaireur est fidèle à sa patrie. Le devoir d'un éclaireur est d'être utile aux autres et de faire chaque jour une bonne action. L'éclaireur est l'ami de tous. L'éclaireur est courtois, l'éclaireur aime les animaux. C'est pas une obligation, tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est vraiment un éclaireur est comme ça, donc maintenant applique-le dans ta vie et on va t'apprendre comment l'appliquer. C'est la règle du jeu scout, ce sont des repères, ça permet de savoir où on va. Et à travers la loi, c'est tout ce qui est la notion de respect, respect de soi, respect des autres, respect de la société qu'on veut faire intégrer aux jeunes. Et la promesse, ça paraît un peu gros comme ça. Souvent quand on dit promesse comme ça dans les églises, on pense tout de suite promesse de mariage, je te resterai fidèle toute la vie, etc. C'est pas un engagement aussi fort que ça qu'on demande, même si c'est quand même un engagement. C'est un engagement que le jeune prend lui-même, c'est librement consenti. Si un jeune ne fait pas sa promesse, c'est pas pour autant qu'on va lui dire tu t'en vas. Mais sa promesse, ça veut dire je m'engage à vivre cette loi qui dit qu'un éclaireur est comme ci, un éclaireur est comme ça. Je veux être un éclaireur, je veux essayer de la vivre. Et quand les jeunes font leurs promesses, on leur dit toujours qu'ils doivent être éclaireurs là où ils sont, chez eux, à l'école, au loisir, au scout, et qu'ils ont le droit de tomber, ils ont droit à l'erreur, comme disait Jean. Mais nous, on est là pour les aider à repartir. Quand on dit toujours que quand on se noie, il faut donner un coup de pied au fond de la piscine pour remonter. C'est un peu ce qu'on essaye de leur apprendre. Pas se laisser couler, c'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'on est fichu, c'est pas parce que un éclaireur est l'ami de tous. Oui, mais là, je viens de bien me disputer avec mon copain, je suis foutu, je suis plus éclaireur, j'enlève mon foulard, je suis plus rien. Non, tu vas demander pardon et puis on peut repartir, quoi. Voilà. Les choses importantes aussi, c'est la vie en équipe et le jeu des conseils. Ça permet la responsabilisation. Donc, à chaque fois, vous verrez, il y a plusieurs tranches d'âge. Les choses sont adaptées. Mais les jeunes vivent en équipe, en petites équipes. Là, vous voyez, une équipe, la patrouille. Ils sont 7, ils sont 8, ils font leur vie dans leur coin, j'ai envie de dire. On est juste là pour les aider, leur donner un coup de main. C'est eux qui décident de leur programme, c'est eux qui décident ce qu'ils font. C'est eux qui décident comment ils fonctionnent aussi. Qui va faire quoi dans la patrouille, qui va faire la cuisine, qui va chercher le bois, qui va s'occuper de la carte pour savoir où on est, où on va, et ainsi de suite. C'est eux qui se gèrent. Et les conseils, le jeu des conseils, c'est simplement que quand il y a quelque chose à décider, le chef de patrouille, donc en l'occurrence Mathias, prend ses gars et puis leur dit « on se pose, et maintenant on discute. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas ? On règle les problèmes, on gère. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois ?» Et ils décident vraiment ensemble. C'est le jeune qui est acteur de sa pédagogie. Bon, le jeu, les activités dans la nature, la vie dans la nature, je pense que je n'ai pas forcément besoin de vous expliquer ce que c'est assez clair comme ça. Et ce qui est important aussi, c'est la progression personnelle. Donc, je vous disais, c'est une méthode pour prendre chaque jeune et pour l'emmener à développer son potentiel maximal. Donc, le groupe est important, mais la personne aussi. Et cette progression personnelle, on essaye de l'axer sur 5 domaines qui recouvrent un petit peu tout. La personnalité, apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses points forts, ses points faibles, comment les gérer, comment prendre des responsabilités, comment les tenir, comment assumer ses choix, même s'ils sont difficiles à vivre par rapport aux autres. Le savoir-faire, maîtriser des techniques, apprendre effectivement, si on ne vous a jamais mis une boussole dans les mains ou une carte dans les mains, vous ne savez pas comment il faut faire avec. Si vous ne savez pas faire du feu, si vous n'avez pas appris, c'est difficile de faire partir un feu, encore plus quand il pleut et qu'on est mouillé. La santé, c'est important, surtout de nos jours. Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas ? Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, disait « Un éclaireur ne fume pas parce que ce n'est pas un imbécile. » Pas parce que c'est mauvais pour la santé, pas parce que c'est pas bien. Non, c'est une réflexion à avoir. Voilà. On va pas leur dire « Te drogue pas, c'est pas bien. » On va dire « Voilà ce que t'apporte la drogue. Voilà comment Dieu t'a créé. Maintenant, fais ton choix. Qu'est-ce que tu choisis à ce niveau-là ? » Le plus dur, je pense, pour les éclaireurs, c'est se laver le matin quand on fait un triken, qu'il pleut, qu'il fait 5 degrés et qu'on n'a que de l'eau froide. Et là, vous voyez tout de suite celui qui a pris soin de sa santé ou pas, parce que concrètement, celui qui ne s'est pas lavé, il va passer son temps à ronchonner jusqu'à 10 heures parce qu'il a froid, parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'est pas bien. Alors que concrètement, celui qui s'est lavé même à l'eau froide, comme finalement l'eau est plus froide que le reste, ça le réveille, après il est en forme et il a chaud. Et ça, c'est des trucs tout bêtes. Mais qui leur font prendre aussi conscience que ça fait du bien d'être propre. Et se laver, c'est important, pas juste pour être propre, mais aussi parce qu'on démarre la journée du bon pied. Faire attention à sa santé, c'est important. Le civisme, le sens social, on est dans une société, même si on est chrétien et qu'on ne fait pas vraiment partie du monde, on est quand même dans le monde. Et la société dans laquelle on est, si on reste juste assis sur nos chaises en disant « c'est une société pourrie et c'est une horreur », elle ne pourra jamais évoluer. Je pense que Dieu nous donne un rôle aussi à faire et à nous aussi d'apprendre à nos jeunes de prendre leur rôle dans la société, d'être capable en tant que citoyen de dire oui, de dire non, de faire des choix réfléchis et éclairés. Voilà. Et donc le dernier point, mais pas le moins important, comme je disais, le sens de Dieu. On accueille des jeunes qui sont chrétiens, on accueille des jeunes qui ne sont absolument pas chrétiens. On n'est pas là pour remplacer une église, on n'est pas là pour les obliger tous à se convertir. Chacun a son choix et est libre. Mais comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu ? Notre rôle, c'est de leur faire entendre, de leur faire découvrir et de leur permettre de pouvoir faire un vrai choix en sachant si oui ou non, ils choisissent Dieu. Parce qu'ils savent qui est Dieu, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Voilà donc dans les grandes lignes un petit peu la méthode scout. Donc maintenant, notre association, les EEF et notre façon de vivre le scoutisme, vous verrez que le scoutisme, c'est un mouvement qui est mondial, qui recouvre... une énormité de personnes, je ne sais pas exactement combien, mais rien qu'en France, nous on est un tout petit mouvement, on est 600 membres, et rien qu'en France, il y a 9 associations qui sont reconnues officiellement et qui représentent à peu près entre 150 et 200 000 jeunes en tout. Donc on est bien petit à côté, Et il y a plein de façons différentes de vivre le scoutisme. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu, nous, comment on est organisé. Donc, les EEF sont organisés en 4 branches. Si tu peux passer le temps que ça fonctionne. Voilà. 4 branches spécifiques. Donc, chaque branche correspond à une tranche d'âge, à une loi et une promesse qui sont une pédagogie qui est adaptée. Et à chaque fois, il y a une organisation particulière pour assurer le bon développement de chacun. Donc la première branche, les plus jeunes, les plus petits, ce sont les loustiques. Ils ont entre 6 et 7 ans et ils découvrent le scoutisme à travers l'histoire de Robinson Crusoe. Donc à cet âge-là, c'est souvent l'apprentissage de l'autonomie, c'est le premier week-end sans maman, c'est je ne sais pas faire mes lacets, c'est je ne sais pas où sont mes habits. Donc les chefs sont vraiment très présents. C'est difficile d'avoir un bon rôle. Il faut être à moitié parent, à moitié ami. On n'est pas là pour remplacer les parents, pour prendre leur place. Mais pour autant, il faut que le gamin soit en sécurité. Donc, on va prendre soin de lui. Et c'est vraiment... Baden-Powell, pour ceux qui connaissent, il disait que le scoutisme, c'est la suite de la méthode Montessori. C'est la suite logique. Donc, la méthode Montessori, pour ceux qui ne connaissent pas, l'adage, c'est « aide-moi à faire tout seul ». Et le scoutisme, c'est vraiment ça. Donc, on les prend à 6 ans et on leur apprend à faire tout seul, à faire tout seul leur lacet, à faire tout seul leur sac, à faire tout seul bien essorer le gant de toilette et pas le remettre dans le sac tout au fond où il va mouiller toutes les affaires. À faire tout seul, j'ai peur un peu de la nuit, mais je fais quand même le tour du terrain et je me rends compte qu'en fait, la nuit, c'est sympa. Tout ce genre de choses, quoi. Et puis, à 8 ans, le petit loustique a bien grandi. Il devient... il devient un petit louveteau. Il est temps pour lui de passer à autre chose. Il va rentrer, donc les louveteaux, ce sont pour les 8-11 ans. Ils sont en sixaine, en groupe de 6, petite équipe de 6, qui sont mixtes. Là, on continue encore à laisser les garçons, les filles ensemble. Ils ont encore une mentalité qui est à peu près identique. Et là, donc, ils vivent l'histoire de Mowgli, le livre de la jungle. Vous avez au minimum vu le DVD si vous n'avez pas lu le livre. Et à travers Mowgli qui grandit et qui découvre les choses, c'est l'âge des grandes découvertes, l'ouverture au monde, à soi-même. Et c'est aussi, les psychologues disent qu'à 8 ans, 10 ans, c'est l'âge du grand égoïsme. Tout est pour moi, c'est moi d'abord, et tout ce qui est intéressant est à moi. Et le principe au louveteau, c'est qu'on vit dans une sixaine, et que tout est pour le groupe, pour la sixaine. Et on fait les choses ensemble. Et le chef a ce rôle-là de dire... oui, tu vois, tu veux des céréales, mais ton copain aussi en veut. Il reste que ça dans le paquet. Tu fais quoi? Tu remplis ton bol à fond, puis il n'en a pas, ou bien vous partagez? Et tout cet apprentissage-là qui va les aider à s'ouvrir aux autres. Ils ont une loi. C'est quoi la loi, Caribou? C'est quoi la loi des louveteaux? Non, ça c'est la devise. Donc la devise des louveteaux, c'est de notre mieux. Un louveteau fait toujours de son mieux. Sa loi, c'est... Un louveteau pense d'abord aux autres et un louveteau écoute les vieux loups. Donc quand les louveteaux font le salut, c'est à ça qu'on pense. Donc les vieux loups, c'est qui? Ce sont nous les chefs, c'est le louveteau qui est un peu plus âgé, qui a 11 ans, 12 ans, qui va bientôt passer. Ça va, je me mets dedans, si j'ai moins de cheveux blancs que toi, donc c'est bon. Mais voilà, un louveteau pense d'abord aux autres. Et moi, mon fils est rentré dans les louveteaux cette année et je peux vous dire que ça marche vraiment parce que l'histoire du paquet de céréales, c'est du vécu. Mais maintenant, il prend le paquet et puis il fait « Bon, un louveteau pense d'abord aux autres, je suis aussi louveteau à la maison. » Et il demande à son frère s'il en veut. Et ensuite, soit il est bien content parce que le frangin n'en veut pas et il vide tout dans son bol. Soit il partage et puis voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qu'ils intègrent. Et les louveteaux, le système des louveteaux, c'est qu'ils vivent dans une famille heureuse. Nous, notre rôle en tant que chef, c'est de les faire vivre dans une famille heureuse. Ça reste quelque chose de petit, mais on veut les faire vivre heureux. Quand ils ont bien compris le système, quand ils ont bien grandi, si tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Les jeunes ont 12 ans et ils quittent la jungle, ils rejoignent le monde des hommes et ils arrivent aux éclaireurs, donc les 12-17 ans. Et là, à ce niveau-là, la mentalité change énormément entre garçons et filles. Donc ils vont être dans des équipes non mixtes. Là, vous voyez, c'est une patrouille, il n'y a que des gars. Les filles sont en clan, que les filles. Alors, c'est de la coéducation. Chez nous, on pratique la coéducation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement séparés, ils ne se voient jamais. Mais leurs activités propres se font vraiment entre gars, entre filles, même si on se retrouve régulièrement pour faire des choses ensemble. Tout simplement parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes envies à cet âge-là, ils n'ont pas les mêmes désirs. Et pour qu'ils puissent se développer réellement avec leur personnalité, c'est important qu'ils puissent faire ce dont ils ont envie. Voilà. Donc la loi sur laquelle se basent les éclaireurs, je vous ai lu quelques extraits de cette loi. Il y a 12 items qui touchent à tous les domaines de la vie. Vraiment tout, la sincérité, le courage, la discipline personnelle, la gaieté, la prévoyance, la gestion financière. Il y a vraiment un petit peu de tout. Et quand un éclaireur prend sa promesse, à cet âge-là, ils sont capables de comprendre leur engagement. Et donc, ils prennent l'engagement de vivre cette loi partout où ils sont, sachant qu'on est toujours là pour les épauler. Et les jeunes donc, sont en semi-autonomie à ce niveau-là. On les laisse vraiment gérer, comme vous avez pu voir peut-être de temps en temps, quand il y a eu, je sais que quand il y a eu des travaux, les jeunes sont venus vous aider. La dernière fois en particulier, en mai, il n'y avait pas du tout de chef avec eux. On savait où ils étaient, on savait ce qu'ils allaient faire, et on savait aussi qu'ils étaient capables de gérer tout seuls. Le but, c'est vraiment de leur apprendre à vivre tout seul leur vie. Tout à l'heure, Diego nous disait que ce qu'il aimait, lui, dans les scouts, c'était l'explo. Alors, ça paraît un terme un peu barbare, mais l'exploration, c'est simplement quand on fait un camp, ils prennent leur sac à dos un matin, et ils partent pendant 3 jours, avec ou sans chef, mais ils partent, ils suivent la route, ils vont se poser dans un village, ils vont aller toquer aux maisons pour savoir s'ils peuvent dormir quelque part, dans une salle paroissiale, dans un champ, chez quelqu'un. Il y en a qui ont des bonnes surprises, parce que c'est souvent la première douche chaude, vraie douche qu'ils prennent du camp, parce qu'il y a des gens qui leur ouvrent leur salle de bain. Et oui, il y en a qui se trompent de chemin aussi. Ils découvrent leur vie, ils découvrent, ils partent et ils rencontrent des gens, ils rendent service sur place, ils découvrent le paysage, les endroits où ils vont vivre. C'est vraiment un temps où ils sont seuls, le chef passe pour voir ce que ça donne. On reste dormir avec eux pour des raisons de sécurité et de législation, mais il y a quelques années, il y a quelques années, on pouvait les laisser partir seuls 3 jours, ils revenaient comme ça sans problème. Ils apprennent vraiment à se gérer tout seuls. À 17 ans, ils sont assez grands et on passe donc aux routiers. Ils ont entre 18 et 21 ans et ils font un petit peu le projet comme font vos jeunes aux Philippines, si j'ai bien compris le système. Ils montent un projet, ils sont adultes. Là, c'est la question du choix. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel objectif je me fixe pour dans 5 ans, pour dans 10 ans? Comment je vais le faire? Et j'apprends à prendre une responsabilité et à la tenir jusqu'au bout. C'est l'âge aussi où, avec simplement un adulte qui fait le point avec eux, ils vont monter des projets à 25, 30 000, 40 000 euros de budget et ils vont se débrouiller seuls pour gérer le budget, pour réunir les fonds, pour faire le trajet, pour trouver les associations humanitaires qu'ils vont aider, etc. Voilà un petit peu comment nous fonctionnons, nous. Donc ensuite, un groupe local, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien voilà, c'est une ou plusieurs branches. Donc il peut y avoir des louveteaux, des éclaireurs, que des louveteaux, que des éclaireurs, des routiers, des loustiques, les 4 à la fois, tout dépend du potentiel du groupe, tout dépend des gens qui sont engagés. On se retrouve, on essaye de se retrouver tous les 15 jours en moyenne. Au niveau légal, on est déclaré en tant qu'accueil collectif de mineurs, les anciens CLSH. Donc on a des BAFD, on a des BAFA, on essaye au maximum de respecter à ce niveau-là la réglementation, histoire de pouvoir aussi garder toujours cette sécurité. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on fait au scout? Si tu peux passer juste la diapo suivante. Alors, je suis désolée, vous ne voyez pas forcément grand-chose, mais pour ceux qui sont assez près, qui y voient, on voit les constructions, les feux de camp, on fait de la cuisine aussi, on fait de l'orientation. Si tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. On se retrouve, on fait du sémaphore pour les louveteaux. Alors, le sémaphore, le morse, ça paraît un peu dépassé, mais c'est aussi une question de maîtrise de soi, d'apprentissage, de réflexion aussi, même si ça paraît dépassé, c'est toujours intéressant. On s'est formé il n'y a pas très longtemps au PSC1. Et puis voilà ce qu'on est prêt à faire, nous, pour vous, pour aider à démarrer le groupe. Quand un groupe commence, on lui apporte tout le soutien dont il a besoin, que ce soit de la formation pédagogique, que ce soit des visites, du soutien par les responsables quand il y en a besoin. On est toujours prêt à donner des conseils très basiquement logistique, on va dire, comment on fait pour démarrer un groupe, qu'est-ce que je mets dans ma première lettre aux parents pour leur expliquer comment ça fonctionne, et puis ça va jusqu'à finalement comment on remplit la déclaration au niveau de la jeunesse et sport pour être déclaré officiellement. On fait aussi un parrainage avec les autres groupes locaux, c'est-à-dire que concrètement, le groupe ici, il ne va pas vivre tout seul. On va se retrouver régulièrement avec ceux qui sont à Belfort, on va se retrouver avec ceux qui sont à Saint-Louis, on va faire des choses ensemble. S'il y a besoin de jeunes, de chefs, il y aura toujours moyen de faire des choses avec eux pour motiver vraiment les choses. Et puis voilà, tout ce qui est conseil, on est là pour le donner. Alors, votre contribution à vous, si vous voulez vous engager dans cette aventure, ben voilà de quoi on a besoin. On a besoin d'un local ou d'un terrain pour faire les activités. On a besoin d'une équipe de chefs qui sont motivés, qui sont prêts à se former. On ne vous demande pas forcément d'avoir votre bac plus 5, au contraire. Ce n'est absolument pas obligatoire. Bac plus 5 en orientation éventuellement, mais bon. Juste d'être prêt à vous motiver, d'être prêt à vous former, d'être motivé pour encadrer des jeunes, de reconnaître aussi que c'est un appel de Dieu pour vous d'aller servir à cet endroit-là. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des moments qui ne sont pas forcément faciles en tant que chef. Il y a des fois où on rentre chez nous et on se dit « Pourquoi je me suis levée ce matin ?» Et si on n'est pas convaincu que c'est Dieu qui nous appelle là, on a tendance à lâcher très vite. Et puis, il y a quand même des jeunes qui sont là et qui attendent de nous. Notre but, ce n'est pas de faire un groupe qui va fonctionner un an, deux ans, puis qui va s'arrêter. C'est de faire un groupe qui va durer parce qu'on pense que c'est vraiment important pour les jeunes. Et pour ça, il faut que nous, adultes, on soit sûrs que c'est notre place. Parce que même si c'est notre place que pour 5 ans, c'est toujours 5 ans de gagner. Mais si on n'est pas à notre place, ce sera de toute façon perdu. Et puis on a besoin de votre intercession, l'intercession de l'Église, d'un groupe de chrétiens, d'un groupe d'Église. On a vraiment besoin de ça parce que je pense que vous le savez tous, à partir du moment où on veut amener le jeune à être autonome, indépendant et responsable de lui-même, à partir du moment où on veut lui apprendre à gérer sa vie et pas à laisser sa vie être gérée par le monde, le combat spirituel, il est là. Et on ne peut pas le tenir tout seul, donc on a vraiment besoin à ce niveau-là de vous. Et puis un engagement de chacun dans la durée, c'est ce que je vous disais, si on commence un groupe, ce n'est pas pour l'arrêter dans 6 mois. Donc est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure longtemps? Vous avez toujours la possibilité, si vous dites c'est quelque chose de super intéressant, mais moi j'ai déjà plein d'activités, de vous engager en tant que membre associé ou ami pour donner un coup de main quand il y a besoin d'amener les gamins d'un endroit à l'autre, quand il y a besoin de prêter... la maison parce qu'on se retrouve pour faire une sortie, tiens moi j'ai un chalet, vous pourriez aller dormir là-bas si vous voulez, je vous donne les clés, ce genre de choses. On a toujours besoin de tout et surtout de soutien dans la prière. Donc voilà, j'ai fini un petit peu ma présentation. Si tu peux juste passer, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, j'étais un petit peu longue, je suis désolée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est encore là. Si vous avez une question immédiatement, vous pouvez en profiter pour la poser. Donc à la sortie, si vous voulez, il y aura des petits tracts comme ça qu'on va vous laisser, qui expliquent un peu, ça résume un petit peu ce qu'on fait, nos idées, nos branches. Vous avez de toute façon Luc Bussière à nos contacts, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour ça. Voilà, merci à vous.
Voilà, merci bien. Pour la petite histoire, il faut savoir que Manuela était une louvette, moi j'étais un louveteau, j'étais cisonnier. Donc il y a Marie-Christine Buick qui a fait des années de scoutisme. Hein, je ne sais pas combien, Marie-Christine. Voilà, donc ça fait combien en tout? Pardon? 15 ans. Voilà. Puis il y en a d'autres ici, Denis, 15 ans aussi. Lydie?